cet enseignement nous montre dans son développement la vérité sur l'intercession et qui doit intercéder pour un pécheur. Il est de plus en plus répandu de nos jours dans certaines assemblées chrétiennes des groupes d'intercession. Nous verrons aussi si vraiment cela est légal selon la volonté de Dieu. Cet enseignement nous donnera la réponse. Et comme cela, on ne pourra plus vous tromper. Il y a un seul intercesseur qui siège devant sa sainteté, le Dieu, pour intercéder pour les pécheurs. Il y a un avocat. Aucun homme pécheur ne peut intercéder pour son frère pécheur. Nous sommes des pécheurs. Il est vrai que nous sommes, par le baptême, au nom de Jésus, des enfants de Dieu. En marche vers la perfection et la sainteté. Nous sommes seulement en marche,
mais nous n'y sommes pas arrivés.
1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Personne n'est encore devant le trône de Dieu saint pour intercéder. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui est à la droite de Père, a cette tâche. Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Notre premier devoir en tant que serviteur et disciple de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et d'enseigner la loi royale et ses ordonnances, établies par Jésus-Christ, le médiateur et souverain sacrificateur. Donc, nous allons voir cet enseignement. Intercession. Qui doit intercéder? Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amis, frères et sœurs en Christ, après avoir entendu, compris et saisi cette vérité de ces passages des Écritures saintes, franchement, qui est l'intercesseur devant Dieu pour l'homme pécheur? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce toi? Est-ce moi? Est-ce le pasteur? Est-ce l'évangéliste? Seul est l'intercesseur établi par Dieu pour cette mission. Cet intercesseur est toujours vivant. Il faut être saint dans tout son comportement, sa conduite, sa vie. Manifester et porter la nature sainte de Dieu en lui. Être l'image de Dieu saint. Être en possession de toute la personnalité de Dieu pour prétendre intercéder pour l'homme pécheur devant le saint de saints, le Dieu d'Israël, trois fois saint, le Père de Jésus-Christ. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Seul celui qui est saint est digne d'intercéder pour les pécheurs que nous sommes. Même celui qui marche vers la sainteté, vers la perfection n'a pas cette capacité d'intercéder pour le pécheur. Pourquoi ? Tout simplement qu'il est fils de Dieu adoptif, mais il n'est pas encore saint. Jésus-Christ est saint. Il a cultivé en lui la nature de Dieu son Père, de sorte qu'en voyant le Fils, nous voyons le Père. Jean 14, 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » C'est clair, voilà ce que nous devons être, et après nous pourrons dire, oui, nous sommes ses disciples, ses apôtres et ses serviteurs. Mais notre mission est bien définie. Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un seul a été reconnu digne de cette mission d'intercession devant le Père. Et celui qui l'a désigné a placé en lui toute son affection, c'est-à-dire tout son pouvoir et puissance. Marc 1, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, la mauvaise lecture des Écritures saintes conduit l'homme à se détourner de la volonté de Dieu. En se détournant ainsi, viennent des pensées humaines auxquelles l'homme s'attache, comme rites et traditions. C'est pour cela qu'il y a des multitudes de dénominations avec plusieurs doctrines. Matthieu 15, versets 6 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, les croyants chrétiens ne savent pas quel Dieu il faut vraiment adorer. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Seigneur parle de Juifs, parce que Jésus était Juif par sa mère. Pour mieux comprendre cela, tous prêchent le nom de Jésus, mais ils se contredisent entre eux. Et pourtant, Dieu ne se contredit pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il doit y avoir qu'un seul enseignement, avec une seule assemblée corps du Christ. 1 Timothée 2, versets 5-6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il n'y a aussi qu'un seul Esprit, Esprit Saint de Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a une seule foi et un seul baptême recommandé par Jésus. Le baptême par immersion dans les eaux qui coulent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'homme doit prêter l'oreille à l'enseignement véritable de Dieu par Jésus-Christ et ne pas laisser l'ennemi continuer dans sa lancée. Se mélivrer qui sépare le corps du Christ. Vous le constatez vous-même, non? Le Seigneur le dit bien. Si une ville est séparée, cette ville ne peut subsister. Regardons Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle ne peut subsister. » Dieu, par Jésus-Christ, n'est plus dans ses dénominations. Il est vrai qu'elles prêchent Jésus-Christ selon leur volonté, mais non selon la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il est bon de rappeler une fois encore que les écoles bibliques et théologiques ne forment pas un serviteur de Jésus-Christ. On forme des historiens. Ils racontent l'histoire de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais pas le véritable but de sa venue sur cette terre des hommes. Ils disent Jésus est Dieu, mais ils ignorent l'aspect homme tout court. Ils ignorent comment Jésus est devenu Dieu visible. Le serviteur n'est pas appelé pour intercéder. Le serviteur est appelé plutôt à enseigner comment Jésus l'homme est devenu Dieu visible. Seul Jésus est envoyé pour intercéder auprès de son Père pour l'homme, parce que lui, Jésus, n'a pas connu le péché. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jérémie 11, versets 9 à 12. On peut aller jusqu'à 13. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Nulle part il a été dit aux serviteurs d'aller intercéder, mais d'aller enseigner la parole de Dieu. Alors d'où vient ce rite et tradition qu'on trouve dans les différentes dénominations chrétiennes ? Allez enseigner, allez apporter la bonne nouvelle, témoigner par le comportement, la conduite, en exprimant la nature de Dieu saint par Jésus-Christ. Regardons Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Matthieu 25, 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jacques 2, 14 à 20. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-nous ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Le devoir du serviteur, c'est d'apprendre à l'enfant de Dieu comment marcher avec son Père. En l'habillant de la parole, en gardant fermement l'alliance avec son Père par Jésus-Christ. Luc 15, versets 22 à 23. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. « Mangeons et réjouissons-nous. » Le veau gras n'est autre que Jésus-Christ, la rançon qui prend la mort de l'enfant sur lui. Jean 6, verset 48. « Je suis le pain de vie. » Et dans le verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Jésus-Christ n'a pas dit de le remplacer pour intercéder, mais d'aller enseigner ce qu'il a prescrit. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Car intercéder spirituellement, cela veut dire prendre les péchés de l'autre sur soi. Jésus, lui, a pris nos péchés et les a détruits. Il est notre avocat auprès de son Père. Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Voilà ce que c'est l'intercession. Jésus a pris nos péchés. Il a intercédé en prenant nos péchés pour que la mort qui devait frapper le pécheur soit tombée sur lui. Un seul a reçu cette mission d'intercession, c'est Jésus-Christ. Le serviteur, sa mission n'est pas d'intercéder, mais d'enseigner. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce n'est pas d'intercéder. Ceux qui se donnent ce genre d'exercice ne connaissent pas Jésus-Christ. Attention, on a déjà vu que l'ignorance est une maladie et que la maladie conduit à la mort. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. À chacun sa mission, le serviteur n'est pas le maître. Le croyant chrétien soutient un frère, il n'intercède pas. Le seul Jésus-Christ intercède pour les coupables. Mais le croyant chrétien, lui, soutient le frère croyant chrétien qui marche. Le Seigneur Jésus-Christ prend sur lui les péchés du coupable et le rend libre. Il paie à Dieu son Père la rançon par son sang et son corps. Job 33, 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Mais toi qui te dis intercesseur, qu'est-ce que tu as payé pour la délivrance de ce coupable ? Quelle rançon as-tu donné ? Alors, tu ne peux pas te dire être intercesseur. Le seul intercesseur reconnu et autorisé par Dieu, c'est Jésus-Christ. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà, amis, frères et sœurs en Christ, maintenant vous savez qui intercède. Par tous ces passages que nous venons d'entendre, après avoir été lavés de la parole de Dieu, joignons-nous d'un même cœur et rendons gloire à Dieu de ce que la parole vivante nous parle encore aujourd'hui. C'est une grâce. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Gloire à Dieu, car on ne pourra plus vous tromper, amis frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous garde.